Voilà, Radio Libertaire, Chronique Hebdo, l'émission du jeudi.
La voix sans lieu ni maître de la Fédération anarchiste.
Le jeudi 17 mai, le jour de l'ascension.
Nous allons tous prendre
l'ascenseur.
Alors c'est pour ça qu'on va sûrement écouter ni Dieu ni maître.
Ça va être la petite surprise, on dit aux auditeurs, au cours de cette émission. Cette chanson, cette chanson de Léo Ferré, on reviendra dessus, on fera une petite évocation, présentation de cette chanson et on parlera un petit peu de Léo Ferré. Josy, alors, l'ascension, alors, Jacques, c'est ça, l'ascension du maître, l'ascension du roi, l'intronisation, mais alors, aussi, on va évoquer les sujets du jour. Alors, les sujets du jour, on reviendra peut-être sur un sujet, c'est pas le tout ce qui se passe dans ce pays, hein, on a dit ça, et la Grèce, hein, en particulier ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe aussi en Espagne, et puis ce qui se passe ici.
Oui, c'est ça, c'est le, au fond, c'est aujourd'hui où on est en train de relancer cette idée tragiquement néfaste qui est l'Europe des marchés, l'Europe du fric. On s'aperçoit que depuis 40 ans qu'elle existe, eh bien, elle est en train d'exploser. Hein, que ce soit en Grèce, on commence à dire qu'elle va sortir de l'euro, que ce soit en Espagne où on dit ah ben les banques sont au bord de la faillite, il y en a une qui est déjà nationalisée, que ce soit en Italie, que ce soit en France, eh bien je crois que là on a une démonstration éclatante du fait que l'Europe, hein, comme l'avait dit d'ailleurs Bourdieu quand il était venu, n'est pas constituée sur une base qui a été au fond avancé au début en disant ça va être la réconciliation de tous les peuples, ça va être la possibilité des échanges, ça va être la connaissance de toutes les cultures, la connaissance des langues, ça va être la connaissance de toutes les histoires, ça va être un grand continent qui va être au fond une immense fédération dans laquelle la paix, la justice et la morale régneront. Eh bien, on voit que, en fait, c'est la morale du fric qui a régné. Alors bon, aujourd'hui, on a le roi Dagobert qui a effectivement déjà pris comme ministre des Affaires étrangères quelqu'un qui était contre l'Europe, qui a voté non à l'Europe, Monsieur Fabius, et qui maintenant, évidemment, pour avoir un strapontin, pour avoir un ministère, est prêt à dire que finalement l'Europe c'est pas mal. Hein. Donc effectivement, je crois que on a
c'est beau le Quai d'Orsay aussi, hein, c'est ça, c'est un palais princier.
Et ce qui est triste aussi, c'est quand on voit réapparaître le personnage Fabius, ce personnage qui a été, si vous vous rappelez, si vous étiez né à l'époque, qui a été celui qui a complètement transformé ce qui restait de socialiste dans la social-démocratie mitterrandienne et de Mauroy, qui l'a transformé en libéralisme pur et dur, puisqu'au fond, il a été celui qui a reconnu que finalement, on ne pouvait pas éviter le capitalisme, on ne pouvait pas éviter de donner finalement le pouvoir au marché sans aucune régulation. Et d'ailleurs, l'Europe, au fond, c'est ça, c'est un pouvoir exorbitant de tout ce qui est le fait d'être au fond entièrement entre les mains des multinationales de la banque et de la finance, donc ce grand aéropage qui effectivement a commandé l'Europe et la commande encore aujourd'hui avec les conséquences qu'on est en train de voir depuis un demi-siècle, depuis qu'elle existe. Et donc Fabius a été, en ce qui concerne la France, le remplaçant de Mauroy en 1982, c'est-à-dire à peine un an après que le drapeau socialiste se soit éclaté sur la Bastille et sur le Panthéon.
31 ans, alors juste cet élément par rapport à Fabius, comme ça. Vous savez que dans ce nouveau gouvernement, on nous dit qu'il n'y a pas des ministres d'État, mais enfin, il y a un ordre protocolaire. Et en particulier, Monsieur Fabius, souvenons-nous, c'était vous parler au Premier ministre de la France. Alors donc, il y a deux premiers ministres. Hein. Faut pas l'oublier. Ça, on l'a encore pas dit. Il y aura au Quai d'Orsay, Monsieur Fabius, qu'on pourra dire le véritable Premier ministre de la France. Hein.
Oui, alors dans le sommaire, donc, comme tu l'as dit, on parlera de l'Europe et des problèmes qui se posent dans les pays qui nous environnent, indépendamment d'une autre. On parlera bien sûr de la composition du gouvernement du roi Dagobert, avec sa cour
et la parité.
Faite de princesses et de princes. Et puis, effectivement, on parlera aussi d'un autre sujet qui est quand même plus sérieux et qui est plus centré sur ce que c'est que l'anarchie, ce que c'est que le rôle en quelque sorte des anarchistes qui dans ces situations comme celles que nous vivons aujourd'hui n'est pas de sortir le sabre et le goupillon, mais plutôt d'essayer de faire de la pédagogie. Alors je sais bien que c'est un travail gigantesque, c'est un travail difficile, c'est un travail qui porte sur de très longs mois, de très longues années, mais je crois que c'est le seul combat que nous avons à mener. Nous n'avons pas à descendre dans la rue avec un sabre et un goupillon, nous n'avons pas à essayer d'enflammer comme le veut Monsieur Mélenchon les foules pour qu'elles se fassent massacrer par la police. Nous avons au contraire un rôle de réflexion, et ce rôle de réflexion et de pédagogie, eh bien, il a été mis en place cette année. Je ne sais pas si vous avez tous été pendant ces 3 jours de la semaine qui vient de s'écouler au Salon du Livre Libertaire, à l'espace des Blancs Manteaux à Paris, mais il y a eu en effet des réflexions, des commentaires, des conférences auxquelles nous n'avons pas tout assisté, mais je voudrais tout de même souligner l'intérêt que nous avons eu à écouter un des journalistes de Canard Enchaîné qui était invité pour nous parler d'un bouquin qu'il avait fait il y a déjà pas mal de temps et nous parler de l'actualité d'un personnage qui a disparu il y a une dizaine d'années qui s'appelait Jacques Ellul, qui n'était pas du tout anarchiste puisqu'il avait même tout un fardeau. J'appelle ça
une croix, puisque c'est aujourd'hui l'Ascension.
Oui, une croix. Mais ceci dit, ça n'empêche pas, en effet, qu'il avait eu une réflexion absolument géniale, dans la mesure où il a développé l'idée depuis plus de 20 ans que une société qui fonde toute sa vie, tout son développement, toutes ses structures, toute sa morale sur une science sans conscience, sur une technique qui effectivement conduit à une consommation effrénée et à des utilisations de produits, à des gaspillages, à une société de consommation et du spectacle. D'ailleurs, il s'était intéressé aussi aux conceptions des situationnistes de Guy Debord sur la société du spectacle. Eh bien, Jean-Luc Porquet nous a fait une conférence sur ce sujet-là. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai l'habitude de répéter un peu par facilité sur le fait que, comme le disait Rabelais, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais c'est pas seulement l'âme, c'est en effet l'ensemble de la société qui est tuée par une science sans conscience, par une technique qui est devenue, au fond, le disait Ellul, auto-constructrice, c'est-à-dire il y a même plus des gens qui définissent des programmes ou des projets, il y a même plus des décisions humaines, c'est la technique elle-même qui provoque la nécessité de continuer de faire encore d'autres techniques pour réparer les dégâts qu'elle a fait ou pour essayer de faire consommer encore plus. Alors donc au Salon du Livre, on a eu Jean-Luc Porquet, on a eu aussi Jean-Pierre Tertrais, on a eu quelqu'un qui contribue assez souvent au monde libertaire, André Bernard, on a eu aussi un de nos invités ici, indépendamment de Jean-Pierre Tertrais, Il s'appelle tous Jean.
Jean-Manuel Trémont.
Oui, il y a eu Jean-Manuel Trémont. Non, mais je pensais à Jean-Pierre Garnier.
Oui.
Jean-Pierre
oui.
Garnier également. Et donc, au fond...
Pierre-Carl aussi.
Pierre-Carl, oui, qui était là. On avait toute une série de gens qui, en effet, peuvent nous aider comme c'est notre rôle, comme je le soulignais à l'instant, peuvent nous aider à développer ce combat pédagogique, ce combat d'essayer de revenir, de désenvoûter, comme on le dit aussi, désenvoûter les esprits, faire en sorte qu'ils ne soient pas complètement étouffés par justement cette espèce de sacralisation qui vient encore de nous tomber sur la tête avec le sacre du roi Dagobert. Eh bien, je crois que c'est bien une réflexion sur le fait que on ne peut pas espérer que nos relations sociales, nos relations économiques ne soient fondées que sur les décisions plus ou moins arbitraires et en tout cas qui ne malheureusement n'ont aucune originalité d'une bande de 34 ministres ou ministresses et que il s'agit d'essayer de trouver une façon, peut-être que les Grecs vont essayer de la trouver, de faire fonctionner une société d'une autre façon, c'est-à-dire sans qu'il y ait cette hiérarchie et cette centralisation. Autrement dit, essayer, et c'est vrai que c'est des idées qui sont neuves et qui sont étouffées, évidemment, par tous ceux qui ont la frénésie de la croissance, du spectacle et de la consommation, hein, parce qu'au fond, là encore, on peut dire qu'on est dans la religion des mots. On entend Hollande nous parler de croissance, mais à aucun moment il va nous dire qu'est-ce que ça veut dire la croissance, et il pense que la croissance va permettre à des gens d'avoir un boulot et de pouvoir survivre, alors qu'on sait que depuis que la croissance existe, depuis 40 ans, depuis l'Europe, c'est la croissance du fric, c'est la croissance de la finance, c'est la croissance des dividendes, et c'est la et c'est le chômage, et c'est la misère, et c'est l'appauvrissement des sociétés. Donc, je crois que, là encore, hein, on peut dire que ces réflexions devraient, au fond, être généralisées et être le plus souvent possible développées et illustrées. Alors donc, je crois que José voudrait faire un petit commentaire sur cette fête du livre, ce salon du livre très intéressant. Et qui est le symbole même du combat que nous menons. Hein. Nous n'allons pas descendre dans la rue avec un sabre et un goupillon, comme je le disais tout à l'heure. Et il y a eu une petite fausse note dans ce salon dont tu veux parler, José.
Oui. Mais avant de parler de la fausse note, je voudrais dire que Jacques Ellul, justement, on a appris par l'intervention de Jean-Luc Porquet qu'il avait... il s'était rapproché du groupe des situationnistes de Bord. Et que en fait, ils avaient dit les situationnistes, attendez, on va réfléchir un petit peu. Et puis finalement, il lui avait dit, oh non, un mec qui croit, on peut quand même pas l'accepter dans notre groupe. Alors je pensais aux situationnistes parce que ils avaient fait justement un film qui s'appelait La dialectique, peut-être casser des briques.
Brique comme le ministre de l'écologie.
Oui, c'est ça.
Ben, on va faire, tu l'as fait la première, Josie. Eh bien, on la reprendra tout à l'heure quand même.
C'est un peu de brique et de broc, mais bon, alors la dialectique peut-être casser des briques. Bon, certains pratiquants d'arts martiaux ont pu connaître ce film qui date des années 70, il me semble, et qui était un détournement d'un film très drôle, bon, sur les arts martiaux. Et donc voilà, donc la fausse note. Et alors j'avais envie de l'appeler aussi d'un truc vachement qui fait de jeune maintenant, parce que ça, il faut être jeune. C'est un truc qui s'appelle LMFAO, une chronique LMFAO. Ça veut dire Laughing My Mother Fucking Ass Out. Ça veut dire se marrer à se taper le cul par terre. Donc voilà, c'était un truc qui peut-être vous a échappé parce que c'était pas très visible, mais il a été distribué aux organisateurs de ce salon qui était vraiment bien organisé et bien fait, on va quand même le dire. Mais chacun qui participait avait droit à un petit badge. Et ce petit badge vous a peut-être échappé parce qu'il était assez petit et puis assez noir, mais il représentait un ninja. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le ninja. C'est un guerrier vêtu de noir. Moi, j'appelle ça qui porte une burqa masculine, quoi. Il a une cagoule masquant le visage et il est censé accomplir des exploits en combat, d'être très souple, expert en technique, de dissimulation.
Il a un sabre, hein ?
Oui, il porte un sabre, oui. Et puis, bon, il est spécialiste des techniques de dissimulation. Et donc, si on voit un petit peu dans... Alors, je pense pas qu'il y ait... Les arts martiaux, je disais, ont déjà été détournés par les situationnistes. Mais là, je pense pas qu'il s'agisse d'un détournement complet. Et donc, au milieu de son ventre, il portait le A cerclé, donc anarchiste. Alors, on se demandait un petit peu si c'était vraiment un symbole qui convenait bien à un anarchiste, c'est-à-dire porteur de sabre, cagoulé...
Moine guerrier,
donc symbolisant après tout aussi bien la religion que le service militaire.
Et ça te fait penser au manga d'un adolescent attardé.
Voilà, c'est ça. Et il faut quand même savoir que les ninjas avaient la particularité par rapport à d'autres militaires de n'avoir aucun code de chevalerie, aucun code d'honneur, quoi. C'est-à-dire que tout était permis. Et donc, espionnage, guérilla, embuscade, assassinat. Et qu'ils étaient même qualifiés comme non-humains. Donc, est-ce que vraiment ce symbole-là de...
Oui, il aurait sûrement pas dû être associé à l'anarchie.
Vraiment propice à être associé aux anarchistes. Voilà, c'était un petit peu la question. Et c'est vraiment la fausse note que moi j'ai trouvée dans ce salon. Alors... qui, comme je dis, était quand même très bien.
Voilà. Comme tu as évoqué tout à l'heure, au début de l'émission, la présence de Pierre Carle, à ce sujet, donc, on vous rappelle le site de Chronique Hebdo. Hein, allez sur le site de Chronique Hebdo, il y a une image, vous verrez, sur l'ancien et le nouveau roi d'Agobert.
C'est-à-dire, il y en a, le nouveau a mis les culottes de l'ancien et il les a mis à l'envers.
Surprise. Alors, allez sur le site de Chronique Hebdo. Et puis aussi, sur le site de Chronique Hebdo, on vous conseille d'aller sur le site de Pierre Carle. Alors, le site de Pierre Carle.
Oui, la dernière émission. Hein, voilà.
Exactement. Donc, voir le film qui s'appelle Deska Hollande, un prémontage, puisque c'est pas la version définitive. À ce sujet aussi, sur le site, hein, c'est extrêmement bien fait et accessible. Il y a absolument aucune publicité, donc c'est remarquable, hein, puisque faut éviter toute la pollution publicitaire qui envahit évidemment.
Et ce qui est difficile, hein.
De plus en plus, Internet. Donc, le site de Pierre Carle et des sites de Radio Libertaire ont réussi à échapper à ce poison. Et donc, aussi, vous aurez la petite rubrique, la Mélenchonite. Vous verrez une interview, un entretien entre Mélenchon et Pierre Carle. Et vous tomberez peut-être sur le cul, hein, une fois de plus. Enfin, vous me direz, c'est habituel ou pas, puisque vous êtes informé. Eh bien, on évoque dedans le dîner du siècle. Et apparemment, Monsieur Mélenchon ne connaît pas le dîner du siècle. Alors... je voulais dire, ça c'est très important.
Ah bon, il n'était pas au courant ?
Il ne savait pas. Alors donc, ne pas connaître le dîner du siècle, savoir... Alors, il s'en est tiré, puisque on l'a dit ce matin, c'est quand même l'époque de la petite blague, il s'en est tiré en disant, ah bon, des gens de gauche, de droite, des médias, toutes ces crapules, enfin ça avait l'air d'être un événement, enfin, d'un seul coup, il voyait ce qui pouvait arriver, alors il a dit, eh bien... envoyer un quart, on va tous les arrêter. Alors, ça, c'est monsieur...
C'est sa petite démagogue.
La pratique de... Alors, voilà, Josy. Alors, rappelez pourquoi Pierre Carle, parce que il avait réalisé un film qui s'appelait La sociologie, un film sur Pierre Bourdieu. Est-elle... La sociologie est un sport de combat, point d'interrogation. Et là, je voulais dire, ben justement, peut-être que nos amis avaient pensé à l'anarchie. L'anarchie avec les ninjas est-elle un sport de combat ? Alors, combat, on va répondre, Jacques.
Voilà, quel combat ?
Ne nous méprenons pas.
La sociologie de Bourdieu, c'est c'est aussi une pédagogie, c'est-à-dire de décrypter comment nous vivons et comment nous pourrions vivre.
Oui, oui, juste pour dire en seul mot, un ninja est quand même un mercenaire avant tout.
Bien sûr.
Donc, et pour vous rassurer, en verlan, ça fait Janine. Donc, un ninja, Janine, c'est beaucoup plus sympathique, c'est un prénom féminin. Donc, on en reparlera peut-être, on reviendra sur les prénoms féminins ce matin avec la parité du gouvernement, parce que c'est quand même une chose importante. Hein. Enfin, pour nous, on va donner tout à l'heure notre avis. Alors ça, sur le gouvernement, on reviendra, hein, puis on reviendra, on vous l'a dit, hein, sur l'affaire Jules Ferry quand même, et sur la citation Jules Ferry et Marie Curie. Oui, je pense que c'est important, puisque Hollande veut mettre... Il l'a signifié, hein, donc le nouvel intronisé ou le nouveau locataire de l'Élysée, comme disent les gazettes, de mettre son quinquennat sous l'hospice du savoir et de la connaissance et de l'éducation. Alors donc c'est bien pour ça qu'on a commencé, qu'il a commencé par Jules Ferry, et on verra ce matin, puisque vous savez que les énarques apparemment sont partout, hein, là, encore une fois, l'École nationale d'administration, on parlera peut-être de la promotion Voltaire, les énarques sont partout, et j'avais envie de faire ce petit slogan, hein, qui est un slogan référence aux anarchistes, énarchie partout, justice nulle part. Et vous verrez qu'à l'avenir, ça sera peut-être comme ça. Alors Jacques Jules Ferry, où Hollande s'est déjà planté dans son discours. Je reviendrai là-dessus.
Alors c'est vrai que Jules Ferry, c'est vraiment le symbole que le roi Dagobert a vraiment commis une grossière erreur. D'abord, il a été obligé de reconnaître, après avoir préparé un discours sans aucune restriction pour faire l'apologie de ce personnage, un ennemi de la Commune de Paris, il faut pas l'oublier, qui a effectivement contribué à faire condamner les Parisiens qui s'étaient révoltés contre le régime autoritaire de Napoléon III et qui voulait effectivement éviter d'être piégé par Bismarck, eh bien effectivement les Jules Ferry a été dans la bande d'Adolphe Thiers, et donc avec 10 ou 20 000, j'ai plus les chiffres, parisiens exécutés par les troupes de Thiers, donc les mêmes qui ensuite ont mis sur le trône le général MacMahon et puis monsieur Adolphe Thiers, et puis ensuite effectivement Jules Ferry a pris la relève. Alors donc qu'il aille sur le parvis de l'hôtel de ville donner une embrassade à Delanoë, au maire de Paris, et signer le livre d'or à la gloire des 15 ou 20 000 Parisiens qui ont été assassinés par la Commune de Paris, par les opposants à la Commune de Paris, par les Versaillais, par les gens de Thiers, eh bien c'est déjà un point particulier. Et pendant la période avant la Commune, monsieur Jules Ferry était le maire de Paris, et sa spécialité c'était en effet d'essayer de contribuer finalement à redistribuer d'une façon parfaitement injuste les vivres, les peu de vivres qu'il y avait, au point que le peuple parisien de cette année 70 l'appelait Ferry Famine. Donc ça, voilà encore Ferry Famine.
Exactement.
Alors après, il a fait également des siennes, et même le roi Dagobert a été obligé de le reconnaître quand il a dit que finalement il y avait des races supérieures, exactement comme monsieur Sarkozy, il y avait des races supérieures et qu'il était normal de coloniser. On l'appelait d'ailleurs à l'époque Ferry Tonkin, puisque c'est lui qui a été à l'origine de la colonisation de l'Indochine. Et donc là encore, on peut dire que c'est un emblème particulièrement positif pour un gouvernement socialiste qui défend et qui, comme l'a fait monsieur Chirac, condamnait la France pour la colonisation. Donc on peut dire que là encore on a un symbole fort. Et puis Le dernier symbole, alors, puisque au fond, s'il prend Jules Ferry comme modèle, c'est parce qu'il parle d'instruction publique, c'est parce qu'il parle d'éducation. Là encore, on sait bien que tous les mots sont galvaudés. Hein. Et bien celui de instruction est galvaudé parce que on confond instruction et éducation. Et bien c'est exactement le contraire. Et aussi bien Condorcet que Proudhon l'ont souvent développé, l'éducation, comme le mot latin le signifie, le duce, ça veut dire inculquer, obliger les gens à avoir une obéissance à n'importe quelle information, à n'importe quelle connaissance. Ça fait rentrer de force dans les têtes, c'est ça l'éducation, c'est-à-dire essayer de formater, c'est ce qui se passe en ce moment, les jeunes têtes blondes, comme dirait l'autre. Condorcet et Proudhon disaient non, n'éduquez pas, n'inculquez pas, ne violez pas les cervelles des jeunes, essayez au contraire de les instruire et de faire en sorte que la relation entre celui qui apprend des choses, qui sait et qui veut apprendre, soit toujours une relation la moins hiérarchique possible, et que ce soit au fond non pas une espèce d'endoctrinement, mais une instruction, une formation, un développement de l'esprit et de l'esprit critique de l'individu. Alors, qu'est-ce que c'est que Monsieur Jules Ferry, malheureusement, là encore, on peut dire que l'histoire a montré que on est capable de sacraliser des gens qui ont plutôt plus de défauts que de qualités. L'éducation de Jules Ferry et l'instruction de Jules Ferry, comme tu le disais tout à l'heure, d'une part, ça n'était pas le fait de créer des écoles obligatoires, puisqu'au fond c'était simplement l'instruction.
Précision juste ça rapidement, dans son discours devant la statue de Jules Ferry aux Tuileries, le locataire de l'Élysée a fait un hommage, alors évidemment à Jules Ferry, et a signifié que c'était celui qui avait institué l'école. Alors gratuite, mais l'école obligatoire. Il a parlé d'école obligatoire. Alors, il faut quand même le dire, puisqu'on le disait ce matin qu'il y a énormément d'énarques. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont relu son discours. Rappelez quand même aux auditeurs, ils le savent sûrement, que c'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction, ce qui est complètement différent par rapport à la loi. Hein, à l'époque, la référence est donc simplement, on stipule l'obligation d'instruction. Les établissements d'instruction peuvent être des établissements et des écoles publiques ou libres, ou bien dans les familles, ou bien des associations, ou bien des groupes, ou bien à domicile, où un enfant aurait justement la possibilité de s'instruire avec d'autres personnes, pas forcément des instituteurs. Et voilà ce qui était défini dans la loi. Alors de dire que l'école est obligatoire, eh bien c'est quand même... Peut-être, je sais pas, on va faire inconscient de la psychanalyse de bazar, mais ils veulent donc nous obliger, ou ils veulent obliger les enfants à passer sous les fourches codines de la République, de l'école de la République, comme on la dénonce souvent dans cette émission, parce que l'école de la République, on l'a évoqué un petit peu la semaine dernière avec Patrick Champagne, mais on n'est pas trop revenu sur cette école-là. Il faut voir comment ça fonctionne, il faut voir ces programmes, et il faut voir, on a quelquefois eu quelques appels téléphoniques, eh bien, le rituel scolaire, le rituel de l'ensemble de cette instruction publique qui est devenue éducation nationale, et donc comment le fonctionnement même, avec ses horaires, avec la durée de ses cours, avec le découpage du temps, comment est une préparation, parce que juste quand même, Jacques, je voulais préciser que peut-être que tu l'as vu pour Jules Ferry, les républicains opportunistes, comme on les appelait en 1875, eh bien, les soldats allemands, on avait fait le constat suivant, étant jugés mieux instruits que les Français, la Troisième République chercha à compenser ce handicap afin de préparer la population française à la revanche. Ne l'oublions pas, et ça, personne n'en parle.
Et absolument, et donc c'est bien le quatrième volet de ce qu'il y a de plus néfaste et de plus nuisible dans l'activité, dans l'action de Jules Ferry, c'est que non seulement il a contribué en tant que Ferry Famine et puis comme Versaillais au fait que les Parisiens ont crevé de faim d'abord et ensuite ont été massacrés par les troupes de Monsieur Thiers. Le Ferry Tonkin, c'est le colonisateur qui s'opposait en pleine chambre. Quand on lit, il suffit de lire son discours auprès d'un député qui lui disait, mais enfin, vous êtes en train de vouloir aller imposer votre culture à des gens qui vous ont rien demandé. Je me rappelle plus du nom de ce député. Eh bien, Jules Ferry l'engueulait en disant « Mais comment peut-on dire des choses aussi stupides ?» Il disait « Mais tout ça, c'est de la métaphysique politique. De toute façon, il y a des cultures, il y a des civilisations supérieures. Hein. » Et donc, voilà le personnage, voilà le symbole. Et puis, comme tu viens de le dire, il a fait des instituteurs, les hussards, pour la revanche, hein, on appelait ça les hussards. Et alors là, c'est pour ça que je voudrais lire quelques mots des circulaires qu'il a fait quand il a mis en place son instruction obligatoire. Il a comme quatrième qualité d'être un adepte de la religion. Hein, quand on parle de laïcité et quand on dit que M. Jules Ferry a été quelqu'un qui a enfin dégagé l'éducation, l'instruction, qui l'a enfin dégagé de la religion, dégagé de Dieu, dégagé des dogmes et dégagé du catéchisme, eh bien c'est entièrement faux. Voilà ce que vous pourrez lire vous-même dans une circulaire des années 1880 dans lequel Jules Ferry écrit « L'enseignement moral laïque se distingue donc de l'enseignement religieux sans le contredire. L'instituteur ne se substitue pas au prêtre ni au père de famille. Il joint ses efforts aux leurs pour faire de chaque enfant un honnête homme. » Et ensuite, il écrit « D'autre part, et il est à peine besoin de formuler cette prescription, le maître devra éviter comme une mauvaise action tout ce qui dans son langage ou dans son attitude blesserait les croyances religieuses des enfants confiés à ses soins. Les initier aux émotions morales, écoutez bien, voilà ce qu'il doit faire, c'est-à-dire au fond pas les faire réfléchir, mais les déclencher des émotions, les initier aux émotions morales, les élever par exemple au sentiment d'admiration pour l'ordre universel et au sentiment religieux. » Hein, voilà ce qu'il écrit. En outre, alors ça c'est le côté militaire, hein, c'est le côté en effet hussard pour la revanche, et on a vu les massacres de la guerre de 14, on a vu les millions de morts. En outre, écrit-il, dans les communes où les bataillons scolaires pour les enfants de 9 à 11 ans sont constitués, les exercices de bataillons ne pourront avoir lieu que le jeudi et le dimanche, le temps à y consacrer sera déterminé par l'instructeur militaire, militaire de concert avec le directeur de l'école. Et et dans cette même circulaire, on peut lire, et c'est ça qui est absolument extravagant, un chapitre qui s'appelle « Devoir envers Dieu ».
Oui.
L'instituteur n'est pas chargé de faire un cours ex professo sur la nature et les attributions de Dieu. L'enseignement qu'il doit donner à tous indistinctement se borne à deux points. D'abord, il leur apprend à ne pas prononcer légèrement le nom de Dieu. Il associe étroitement dans leur esprit à l'idée de la cause première, il associe le nom de Dieu dans l'esprit de ces pauvres enfants, à l'idée de la cause première et de l'être parfait. De l'être parfait, il associe un sentiment de respect et de vénération. Alors vous voyez un peu ce que c'est. Et il habitue chacun des enfants à environner du même respect cette notion de Dieu, alors même qu'elle se présenterait à lui sous des formes différentes. Et enfin, la deuxième prescription pour l'instituteur, la distinction entre la loi écrite et la loi morale. L'une fixe un minimum de prescriptions que la société impose à tous ses membres sous des peines déterminées. L'autre impose à chacun, dans le secret de sa conscience, un devoir que nul n'est contraint à remplir, mais auquel il ne peut faillir sans se sentir coupable envers lui-même et envers Dieu. Sans se sentir lui-même coupable et envers Dieu.
Oui, mais alors, c'est dans l'obélite, hein, dans le bénitier.
Voilà la circulaire de Monsieur Jules Ferry pour définir ce qu'a été depuis 1880. Et vous voyez que ça fait 100 et quelques années, 140 ans, ce que c'est que l'instruction laïque que nous développons auprès de nos enfants. Et on peut dire qu'en ce sens-là, M. Sarkozy était plus Jules Ferriste que M. Hollande, puisque lui-même a dit, mais finalement, c'est plutôt le prêtre qui sait définir la bonne morale plus que l'instituteur.
Alors, la référence à Jules Ferry, puisque c'est sous les auspices, on le rappellera tout à l'heure, de l'éducation nationale, et pas de l'instruction publique, et du savoir, et de la connaissance, eh bien, ces fameux républicains opportunistes, un point d'histoire, hein, en 1875, une loi constitutionnelle, exactement, du 16 juillet 1875, écoutez bien, stipulait que le dimanche qui suivra la rentrée, et c'était la rentrée des assemblées de la République, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples, pour appeler son secours sur les travaux des assemblées. Donc, voilà la Troisième République sous les auspices de l'être suprême, comme on le rappelle souvent dans cette émission, parce que c'est quelque chose qui existe dans ce beau pays. Eh bien, il faut le savoir, hein, je le rappelle assez souvent, dans chaque commissariat, les commissariats, là aussi, il va y en avoir plusieurs, parce que tu sais que Jacques, quand même, on va recruter 60 000 agents de plus, on va dire ça comme ça, dans l'éducation nationale, mais il est question de recruter 5, 7 000, je ne sais pas, quand on aime, on ne compte pas, de flics supplémentaires. Eh bien, dans les commissariats, vous avez placardé la déclaration des droits de l'homme, hein, quand vous êtes en garde à vue, enfin, quand on vous fait quelques misères, elle est placardée. Et il ne faut pas l'oublier, ça commence par sous les auspices de l'être suprême. Et ça, c'est toujours en vigueur dans ce pays laïque, hein, dans ce pays où l'Église, nous dit-on, est séparée de l'État. Alors évidemment, c'est une escroquerie, une arnaque. Et là, ça procède de mauvais auspices, de mauvais augures, comme diraient certains, ces déclarations, ces références à Jules Ferry. Alors, Josie, rapidement, avant de l'autre personnage, hein, puisque certains ont dit personnage et on pourrait dire plutôt personnalité, eh bien, c'est Marie Curie. Et Marie Curie, alors, là aussi, les analyses n'ont pas encore tellement faites, comme symbole, une femme, une scientifique, et aussi l'énergie nucléaire, les références à l'énergie nucléaire. Alors, ne l'oublions pas, le petit tour de passe-passe, il faut le savoir, eh bien, la radioactivité qu'il y a quand même quelques dizaines d'années, on exprimait en Curie, eh bien, maintenant, là aussi,
c'est en Becquerel.
Eh ben, le révisionnisme est passé par là. On l'a fait passer en Becquerel. Rappelons-nous qu'il y a une vingtaine d'années, on avait fait un sondage. Il y avait à peu près 70% de la population française qui disait le Becquerel, c'est quoi? Ben, c'est un oiseau. Hein, c'est un oiseau sauvage, le Becquerel. Alors, c'est encore plus sauvage, voire un peu l'information et la connaissance de la population par rapport à la question nucléaire. Et puis maintenant, eh bien, des Becquerel, on est passé au civet. Alors, c'est deux mesures différentes, hein, puisque les civets, c'est carrément, alors là on pourrait dire qu'est-ce que c'est que ça, eh bien c'est la la radioactivité, l'impact qu'elle fait, qu'elle peut produire sur la santé des individus. Alors c'est vrai que la symbolique, vous le savez, est forte, hein, puisque c'est du discours, et c'est comme les curés.
Hein. Je pense que c'est parce que effectivement, il y avait une vision complètement sacralisée de la science. À partir du moment où tu découvres quelque chose, c'est absolument génial. D'ailleurs, je crois que Marie Curie, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas suivi ça de près, mais elle n'est pas morte du fait de la radioactivité.
Elle est morte dans un sanatorium, exactement, donc Marie Curie. Elle avait des problèmes très importants au niveau du squelette et au-delà de ça, de ses muscles, hein, puisque ses mains...
Et on dit que c'est la radioactivité qui l'a en effet tuée.
Et elle avait carrément des brûlures extrêmement graves, justement, sur les mains. Alors, là aussi, puisque il faut quand même le préciser quand même aux auditeurs, souvenons-nous, on peut prendre quelques exemplaires de l'illustration. Eh bien, simplement, même dans les années 50, eh bien, la radioactivité était vantée comme quelque chose qui pouvait être bénéfique pour la santé des personnes. Puisqu'il y avait même, à l'époque, certaines substances, hein, des liquides ou des produits, ou même on faisait des montres, il y avait des montres radioactives, et on disait aux gens, eh bien, avec ça, eh ben, c'est un peu comme les bracelets de cuivre, hein, ou comme les gris-gris, eh bien, vous pèterez le feu, vous serez en bonne santé. Alors, c'est un peu le passage, mais le passage dans lequel nous sommes actuellement, enfin, la symbolique, je pense que la symbolique est forte, puisque Hollande, on bien l'a vu, il a fait quand même une prise de judo, donc aux écologistes, hein, plus que ça par rapport aux nominations du gouvernement. L'affaire du nucléaire, hein, vous le savez, en tout cas, on vous le rappelle, que c'est l'engagement, hein, ça a été un engagement, de virer, de supprimer la centrale nucléaire, de se débarrasser, puisque c'est difficile, hein, on ne sait pas exactement comment faire, démanteler, ça sera une épreuve peut-être supplémentaire, uniquement la centrale nucléaire de Fessenheim et pour les autres de ne pas y toucher, hein, au contraire de ne pas y toucher, touche pas à mes autres centrales et surtout pas à mes EPR, car c'est du bio-nucléaire, hein, c'est du bio-nucléaire comme ils essaient de nous le faire entendre. Alors voilà ce que je voulais dire sur cet aspect-là de la prise
des deux référents, la prise de l'Église, Jules Ferry d'un côté, Marie Curie de l'autre. Alors le nucléaire d'un côté, la religion, l'armée et le massacre des Parisiens de l'autre.
Ça commence bien. Alors Josie, peut-être une partie musicale.
Voilà.
Alors une présentation par rapport à une chanson, hein, qui va une chanson essayer d'illustrer nos propos ce matin. Alors juste rappeler ça quand même par rapport au nouveau locataire. Ça se passait dans les studios de Radio Libertaire, les studios de Radio Libertaire qui n'étaient pas situés où ils se trouvent actuellement, c'est-à-dire dans le 11e arrondissement, on va le dire, hein, du côté de Montmartre à l'époque. C'était le 11 janvier 1996, c'était un jeudi, Jacques, et il était 11h du matin, et ce 11 janvier 1996, eh bien, il y avait Dieu, que certains ont baptisé Dieu, il y avait Tonton, donc c'était la messe pour les obsèques d'un président de la République qui s'appelait François Mitterrand et qui était décédé quelques jours avant. Et donc il y avait eu une messe ce 11 janvier 1996 à Notre-Dame. Et donc on avait demandé à l'ensemble des enfants des écoles, et même sur les lieux, dans les entreprises, dans les bâtiments, la fonction publique, un peu partout dans l'Hexagone et dans les territoires, je ne sais pas d'outre-mer s'ils l'ont fait, eh bien d'observer une minute de silence. Alors, une minute de silence, à l'époque, on a essayé sur Radio Libertaire et dans Chronique Hebdo, hein, puisque je vous le rappelle, ça fait 16 ans, eh bien de charrier, évidemment, de ne pas accepter, de refuser cette minute de silence. Et pour refuser cette minute de silence, on a passé une chanson de Léo Ferré. Et cette chanson de Léo Ferré, eh ben, je vais dire juste un mot, eh bien, vous le savez peut-être, ou on vous l'apprend, pour Monsieur François Hollande, c'est son chanteur et son auteur préféré. son chanteur et son auteur préféré, celui qu'il écoutait, qui a formé peut-être son adolescence et sa vision, comme on vient de le rappeler tout à l'heure, absolument géniale, hein, on peut le dire, par rapport au président, eh bien, c'était Léo Ferré. Et Léo Ferré, en particulier, certaines chansons. Donc, ce matin, évidemment, on voulait, parce que fêter donc cet événement à notre façon, et donc de passer sur les ondes de Radio Libertaire, en rappelant cette fameuse minute de silence, eh bien, la chanson de Léo Ferré que nous avions passée le 11 janvier 1996, c'est-à-dire « Ni Dieu ni maître ».
Un numéro de téléphone, 01 43 71 89 40.
De ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un ballon les étoiles et cette rose sans pétale qui tombe froide sur la dalle. Cet avocat à la serviette, ce taupe qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni Dieu.